a pris le parti quand même de vous expliquer, parce que tout le monde n'est pas au courant, que nous sommes dans une situation un petit peu intermédiaire, à savoir que l'équipe de Psychanalyse Magazine a décidé donc de lancer cette première, qui est une première mondiale, puisque jusque-là, il n'y a pas de journée du livre psy. Donc vraiment, c'est une première. Nous sommes très suivis par les auteurs, par des auteurs de qualité, par d'énormes maisons d'édition. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les rencontrer en bas. Mais c'est vrai que nous sommes tous aussi un petit peu fébriles de part et d'autre. Alors, depuis le départ, nous sommes très agréablement surpris, ce n'est pas de l'hystérie de séduction, par la fréquentation, par le monde, par la qualité des questions, par votre gentillesse. Parce que s'est-il passé? Bien, effectivement, nous avons pris la décision de l'organisation de ces journées, mais un petit peu rapidement, en cours d'année. Et les divers intervenants que nous avons contactés n'étaient pas fatalement disponibles. Donc l'équipe de Psychanalyse Magazine prend un petit peu le relais sur des thèmes qui peuvent vous intéresser, mais nous ne sommes pas des spécialistes de la conférence. Donc vous vous en rendez peut-être compte. Et merci encore de votre compréhension, mais de votre gentillesse, parce qu'il peut filtrer certaines maladresses, mais tout le monde a l'air très agréable. Donc merci encore. Nous ne sommes pas des professionnels de la conférence, encore une fois. Merci.
Nous allons donc rester dans le domaine de l'éducation avec Madame Xavier Santoni, pédopsychanalyste, qui va nous raconter et interpréter ce que nous disent nos enfants.
Voilà, donc bonjour. Alors, comme vous le disiez, Chantal Calatayud, je fais partie de l'équipe de Psychanalyse Magazine et bon, c'est la première fois que on entend mieux comme ça, un petit peu mieux. Non, c'est pas terrible. Il faut que je parle plus fort alors. Bon, je vais essayer. Bien, donc comme je vous disais, je vais pas vous faire une conférence parce que j'en suis pas capable déjà.
Et vous n'entendez pas? Alors il y a peut-être un problème de micro, il faut peut-être carrément le prendre en main.
Je sais pas.
Peut-être le prendre carrément.
Peut-être me rapprocher. Là, ça va mieux? Bon, je vais essayer de
vous
pas
vous
trop.
Vous entendez bouger. Mieux?
Ça va mieux comme ça? Voilà, là c'est mieux. Bon. Le micro est meilleur. Bien. Voilà, donc je vais, comme je vous disais, je vais davantage privilégier l'aspect atelier dans lequel vos interventions, vos questions seront les bienvenues pour un petit peu m'aider. D'autant que vos questions correspondront à au travers de vos questions et de vos demandes, c'est ce qui me permettra, dans la mesure du possible aussi, de satisfaire le mieux à vos attentes. Alors, sur le thème que nous disent nos enfants, j'ai eu envie d'associer cette phrase de Monterland que je vous ai écrite là. J'espère que c'est suffisamment lisible. On entend ou pas? Oui, ça va, d'accord.
Il faut parler plus fort, c'est ça?
Bon, je vais essayer de parler plus fort. C'est vrai que c'est mon point faible, j'ai du mal à parler à haute voix. Je vais peut-être la relire, cette phrase, pour ceux qui sont un petit peu loin. Il est juste d'avoir en la place un enfant qui nous dise innocemment ce que les autres ne nous disent pas. Alors, cette phrase, à mon sens, revient à dire quelque part que pose la question tout entière, est-ce que l'enfant, au travers de son symptôme, est le miroir de ses parents? Et si oui, jusqu'où? Quelle est la part de son fantasme dans ce qu'il va manifester? Alors, plutôt que de rentrer dans de grandes théories, j'ai envie de vous citer un exemple dans ma pratique au quotidien qui illustre assez bien justement cet aspect suivant lequel les enfants donnent tout à fait l'impression, lorsqu'ils viennent en consultation, de transporter l'histoire des parents. Récemment, j'ai eu en consultation un tout jeune garçon de 2 ans, accompagné par les deux parents. c'est la maman d'abord qui s'est exprimée en disant qu'elle venait parce que son petit garçon ne pouvait pas du tout tolérer la présence d'autres enfants, en particulier de son âge, et que malgré qu'il soit encore petit, lorsqu'elle veut avoir un petit peu de temps disponible, elle le dépose dans une crèche et c'est impossible. Très rapidement, il pousse des hurlements, il s'exclut, pardon, et donc c'est une démarche qui est impossible. Alors, au courant de la consultation, en posant quelques questions, en comprenant mieux l'histoire de la famille, il s'est avéré que la maman, lorsqu'elle était enceinte de ce petit garçon, se trouvait en même temps enceinte, en même temps que sa fille aînée, et qu'elles ont accouché à 2 mois d'intervalle. La maman, spontanément, a dit qu'elle avait eu l'impression que sa fille lui avait volé sa grossesse, d'autant qu'elle s'était réservée cet enfant un petit peu tardivement, comme une forme de privilège. Et la fille aînée, étant dans une situation économique un peu difficile, vivait sous le même toit. Donc ces deux bébés sont arrivés en même temps. Et la maman de dire qu'effectivement, elle avait beau lutter contre ce sentiment, elle ne pouvait pas supporter sa petite fille, puisque là, il s'agissait d'une petite fille. Et qu'elle sentait naître en elle des sentiments d'animosité. Le papa lui aussi est intervenu, disant que pour lui aussi ça l'agaçait, d'autant que sa fille aînée à ce moment n'avait pas de mari et qui faisait un petit peu à la fois office de père et de grand-père. Alors il est vrai qu'au travers de ce témoignage, tout laisse à penser que très vite ce petit garçon a enregistré un schéma de rejet quant à d'autres enfants du même âge que lui, et que dès qu'il s'est trouvé avec d'autres enfants, il l'a reproduit, mais reproduit suivant le sentiment de ses parents. C'est-à-dire que lui avait donc enregistré que ses parents, en particulier sa mère, n'aimaient pas les autres enfants. Pour lui, c'est un modèle sur lequel il est venu au monde. Et donc on peut tout à fait y trouver une explication à son comportement. Donc là, on récupère tout à fait l'histoire des parents et on peut a priori dire que c'est pour cette raison que ce petit garçon ne supporte pas d'autres enfants. Mais ça ne suffit peut-être pas non plus à tout expliquer parce qu'il est bien évident que même si ça en fait partie, l'enfant va aussi utiliser ce symptôme, ne serait-ce que, on va dire là, le symptôme des parents, à son profit. Bon, c'est vrai que ce petit garçon, qui ne voulant aller nulle part où il y a d'autres enfants, au moins il est sûr qu'il reste tout le temps avec sa mère. C'est sa façon à lui de privilégier le lien, d'une part. Et bon, c'est un bénéfice qu'il va en retirer dans sa propre existence. Voilà, ça c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, qui à mon sens illustre bien effectivement le comment l'enfant va témoigner en fait d'une histoire qui ne le concerne pas directement au départ.